au détour d'une rencontre, une émission proposée par l'association Détour, un dialogue entre vécu quotidien et réalité sociale. Bonjour, nous sommes cette fois-ci du côté de Fouesnant avec Babette, c'est ça? On dit Babette ou Elisabeth?
Bah alors, mon prénom est Elisabeth et on peut m'appeler Babette.
Est-ce que, pour débuter, vous pouvez nous dire où on est précisément à Fouesnant?
Alors, nous sommes zone industrielle de Parc-Castel à la blanchisserie Conti qui dépend des ateliers protégés du pays fouesnantais.
Et les ateliers protégés, c'est quoi alors?
Bah, c'est en fait une entreprise de travail adapté où on peut réinsérer des gens qui ont du mal dans la vie sociale.
Et vous, vous êtes donc salarié de cette entreprise adaptée?
Oui.
Depuis combien de temps?
Ça fait 30 ans cette année.
Vous avez fait quelque chose de particulier pour fêter cette ancienneté?
Non, ça, je suis dans l'entreprise depuis 1991. C'était d'abord une pâtisserie. Après ça, bah, je suis venue en blanchisserie, toujours dans la même entreprise.
Je suis Pascale Charbonnel, je suis directrice de la blanchisserie Conti et c'est une activité qui a démarré, ça fait aujourd'hui 16 ans, et l'activité a démarré notamment avec Elisabeth, puisque en fait le bâtiment a été restructuré, c'était à l'origine une crêperie, et donc moi le challenge c'était de récupérer les personnes qui travaillaient à la crêperie et à la biscuiterie des ateliers fouesnantais pour retravailler sur un nouveau projet professionnel. On a démarré le 4 janvier, je crois, 2004. Babette faisait partie de l'aventure. Donc, naturellement, elle n'avait jamais mis les pieds dans une blanchisserie. Donc, l'idée, c'était... on a démarré à 5 personnes. Donc, aujourd'hui, c'est 40 personnes qui y travaillent. On a démarré avec 2 clients qui nous ont fait confiance. C'était les 2 maisons de retraite de Fouesnant et de Pleuvaine. Et aujourd'hui, on a à peu près une 50aine de clients. Donc voilà, c'est un projet qui a grandi vraiment avec un engagement très 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 fort du personnel. Au départ, les 4 travailleuses qui ont démarré avec moi n'avaient jamais mis les pieds dans une blanchisserie. Donc c'était à la fois une grande confiance qu'elles me faisaient puisqu'on redémarrait sur un tout nouveau métier, alors qu'elles avaient auparavant travaillé pour Elisabeth. Elle avait dû travailler pas loin d'une douzaine d'années sur un autre métier qui était complètement différent, puisque c'était une biscuiterie industrielle.
Comment on intègre une entreprise adaptée?
Alors, il faut avoir une reconnaissance adulte handicapé.
Mais vous, quand vous... ça vous ennuie de nous donner votre âge? Si ça vous ennuie...
Non, ça ne me dérange pas du tout. Je suis née le 15 décembre 1965, donc j'ai 55 ans depuis le mois dernier.
D'accord, donc ça veut dire que vous êtes entrée ici à 25 ans.
Oui,
d'accord. 25 ans. Et ça vous ennuie de nous raconter un petit peu votre parcours, justement, jusqu'à cette peut-être
alors,
reconnaissance
jusqu'à cette période, écoutez, j'ai fait des études. Des études, j'ai commencé déjà par faire tout mon primaire. J'ai fait 2 ou 3 stages en entreprise pendant cette période. Ensuite, j'ai fait 1 an de 6e à Notre-Dame de la Victoire à Dinan. Ça s'est mal passé. Et du coup, je me suis rabattue vers les classes pré-professionnelles de niveau. Ce qui fait que j'ai mon diplôme de fin d'études obligatoire, le DFEO. Et après ça, je suis allée 2 ans en école d'horticulture. Et à la fin de la 2e année, ça s'est très mal passé. Après ça, mon père avait un élevage de chevaux. On faisait des promenades à cheval. J'ai été aide familiale pendant 1 an, non déclarée. Et après, chômage. Sur les coups de 25 ans... je trouvais rien, donc je suis venue sur Fouesnant et j'ai trouvé cet emploi ici.
Est-ce que vous habitiez chez vos parents, c'est ça?
J'habitais chez mon père, chez mes parents, mais c'est tout simple. Mon père a décidé de quitter ma mère. J'en ai énormément souffert, à tel point que, je vous le dis franchement, j'ai voulu mourir. Et je suis venue ici parce que je déprimais, en fait. J'ai énormément souffert du divorce de mes parents. Même à 25 ans.
Qui est-ce qui vous a...
La seconde épouse de mon père, justement, qui connaissait des gens haut placés dans le social et qui m'ont aidé à rentrer ici.
Et là, vous aviez cette reconnaissance travailleur handicapé à cette époque-là ou
Je l'ai eu en venant m'inscrire ici. Dans un premier temps, j'ai habité sur Quimper et après, au fil des années, j'ai rencontré mon époux, enfin mon ex-époux. Je me suis mariée en 98 et nous avons eu deux filles. Et au bout à la deuxième, j'ai pris un an de congé parental et au bout d'un an de congé parental, j'ai fait une dépression nerveuse. Donc j'ai appelé les services sociaux pour me donner un coup de main et mes filles ont été placées en famille d'accueil. Mon mari a eu quelques petits soucis d'alcool et en 2012, j'ai décidé de divorcer et le divorce a été prononcé en 2014.
Ok, donc pas si simple.
Voilà. Il y a des périodes de ma vie dont je n'ai pas forcément très envie de reparler. Quoi.
Tout à fait, oui. Et donc là, aujourd'hui, votre vie...
Écoutez, elle se maintient. Grâce à Madame Chibonel, j'arrive à sortir la tête de l'eau. J'ai pris la décision il y a très peu de temps de me mettre sous curatelle parce que je n'y arrivais plus financièrement. Et là, j'arrive à vivre correctement, si on veut. Bien non, mais correctement. La seule chose qui m'inquiète le plus, vu la période actuelle, c'est ma maman qui a 86 ans le mois prochain et qui vit seule. Quoi.
D'accord. Elle vit par
non.
ici ou...
Non, elle habite à 180 km d'ici.
Et vous avez le permis vous,
Oui, mais ma voiture vient de me lâcher.
Ah mince.
Compliqué. Et j'espère que ça va se faire, mais j'en ai trouvé une autre. Mais il faut que ma curatrice fasse les papiers pour que je puisse l'utiliser.
Parce que ça implique quoi d'avoir une curatrice
Ma curatrice, je ne peux pas faire de démarches administratives, enfin des achats, de gros achats sans... avoir au moins son accord et qu'elle ait discuté, qu'on ait discuté ensemble des tenants et aboutissants.
C'était difficile la gestion financière.
Oui. Puis en fait, j'ai ma fille aînée dont je parlais tout à l'heure. Quand elle est revenue de Guérande, a vécu sur mon seul salaire pendant un an. Et j'y arrivais plus donc voilà.
D'accord.
L'entreprise adaptée, ce qui les différencie d'un ESAT par exemple, c'est que les personnes en entreprise adaptée ont le statut de salarié. Ça, c'est rudement important puisqu'on est dans une dynamique d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Mais on a à cœur effectivement de mettre en œuvre à la fois une protection sociale et une démarche professionnalisante pour l'ensemble des salariés. Toutes ces personnes ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et ce qui nous permet, nous, entreprises, d'avoir une aide par poste. On a l'équivalent à peu près d'un mi-temps sur la base du SMIC puisqu'on évalue une efficience réduite pour tous ces salariés-là. La grande différence également, c'est qu'on a un encadrement renforcé et qu'on sait qu'au travers leurs difficultés, c'est qu'ils ont des moments où ça va moins bien. Et ce qui est rudement important pour eux, c'est de se sentir en sécurité. Ce qu'on identifie par rapport aux salariés, c'est vraiment ça. C'est des moments un peu plus rapprochés où le salarié peut décrocher professionnellement parce qu'il est fatigué, parce qu'il a une rechute au niveau de sa santé, que du coup la médication est un peu plus forte. Mais ce qui est très 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 important, c'est qu'aujourd'hui ces salariés-là sont en CDI et que notre mission, c'est de les accompagner le long de leur carrière professionnelle au sein de l'entreprise. On a quelques salariés qui souhaitent par contre, après un parcours chez nous, retravailler un projet professionnel en milieu ordinaire. Enfin, sur le champ de l'entreprise. Et donc, notre mission, c'est également d'identifier des potentiels. Par exemple, j'ai un salarié qui a passé tous ses permis poids lourds et qui aujourd'hui travaille dans une entreprise de poids lourds, de transport. C'est pas simple. Et pour les salariés, il y a cette course-là, effectivement, où on peut pas faillir. C'est-à-dire que l'entreprise est un peu impitoyable quand même. Donc, notre mission, elle est là. C'est à la fois d'accompagner des personnes en situation de handicap, de les valoriser sur leur poste de travail, d'accompagner la performance, Donc on a des projets de formation continue constants, hein. On met en place des formations individualisées. Et là, notamment au niveau de l'entreprise, on avait pour projet cette année, j'espère qu'on va pouvoir le mettre en place, un dispositif qui s'appelle AFEST, qui est un accompagnement en formation en situation de travail. Puisqu'on a bien identifié que pour eux, la valeur travail et le geste professionnel étaient très importants. On a des salariés qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture et qui aujourd'hui, grâce à beaucoup, beaucoup de ténacité, peuvent interagir sur des ordinateurs, rentrer des données, des choses comme ça, alors qu'ils avaient complètement perdu l'usage de l'écriture et de la lecture.
Comment ça se déroule une journée type dans la semaine? Vous travaillez du lundi au vendredi?
Je travaille du lundi au vendredi. Alors la journée type, eh ben, on arrive ici...
Mais vous vous levez à quelle heure? Vous habitez à Fouesnant?
Ah, j'habite à Fouesnant, oui. Je me lève le lundi et le mardi. Je commence à 9h, donc je me lève sur les coups de 7h30. Je viens ici, je me change... Et la journée commence, soit on passe des draps à la calandreuse, soit nous plions du linge. Et la journée se termine, se déroule au fil du linge qui sort des machines, quoi.
Ça se termine à quelle heure?
Alors que le lundi, comme je commence à 9h, je finis à 17h15. Le mardi, pareil. Et depuis quelque temps, les trois derniers jours de la semaine, nous commençons à 8h pour finir à 16h15.
Et donc, vous mangez là, le midi?
Oui, je mange ici, à la cantine. Oui, c'est mieux. Comme je suis toute seule à la maison, rentrer chez moi pour parler au mur, ça me plaît pas.
Ouais. Vous aimez bien discuter?
Voir du monde, au moins, le soir, c'est pas grave. Le soir, je suis seule, mais c'est pas important. Mmh. Je suis tranquille, mais à midi, c'est mieux d'avoir du monde pour discuter, et puis on se sent moins seule, quoi.
Donc là, vous restez toute la journée là, et après, 17h15 pour le lundi, et...
Je rentre à la maison.
D'accord, et là, vous faites quoi?
D'abord, je me prends un café le soir en rentrant.
Ouais.
Et la plupart du temps, un petit peu de ménage. Et le soir, sur les coups de 20h, je regarde la télé, par contre. Là, c'est les programmes télé.
D'accord. Quand il fait un peu plus doux, qu'on arrive dans la belle saison, vous profitez un peu de la plage ou
Oui et non. C'est quand je rentre du boulot, par exemple l'été, je suis tellement fatiguée que j'ai pas forcément le courage d'aller mettre les pieds dans l'eau. Mais oui, ça peut arriver. Dans ce cas-là, je vais plutôt du côté d'Audierne-Plogoff. C'est plus sauvage.
Et vous, qu'est-ce que vous préférez
Le silence. Le silence. Pas de voiture ou à peine. Le silence. Le calme.
Ouais. Qu'est-ce qui est difficile dans la solitude?
Y a des fois on peut déprimer. Il y en a d'autres, non. Moi, j'ai trouvé la solution. Je me suis mise à faire des mots fléchés. Et ça occupe l'esprit. Ou alors, je prends un livre et je bouquine.
D'accord.
Pareil, ça occupe l'esprit.
Ouais.
On a moins l'impression de déprimer dans ces cas-là.
Faut s'occuper, quoi,
ouais,
c'est ça.
Voilà, faut s'occuper l'esprit.
Ouais. Quel regard vous portez sur votre vie aujourd'hui?
Écoutez, ma vie, elle a été mouvementée. Très mouvementé, mais j'estime que j'ai quand même bien vécu, eu malgré tout une belle vie, malgré les choses compliquées dont je vous parlais tout à l'heure, je pense que j'ai eu quand même une belle vie.
Donc là, ça, c'est important pour vous le travail aujourd'hui?
Pour l'instant, oui. Ouais. Bah oui, si j'avais pas le boulot, je pense que je serais déjà partie au-delà, quoi.
Qu'est-ce que vous y trouvez dans votre travail
Dans le travail, un bien-être, parce que j'ai une occupation, quelque chose à faire de mes 10 doigts, comme on dit.
Qu'est-ce que vous aimez Peut-être vous allez, on peut aller faire un tour sur votre lieu de travail pour que vous montriez un petit peu ce que vous faites.
C'est comme vous voulez, vous.
Bah ouais, qu'est-ce qui... Alors ça va être un peu bruyant, donc on pourra peut-être moins parler, ça durera moins longtemps, mais qu'est-ce qui vous plaît surtout dans votre travail aujourd'hui?
Un peu de tout.
Quand vous dites vous allez un petit peu partout, vous occupez les différents postes de la blanchisserie.
Oui, sauf la partie couture. Là, c'est deux autres collègues qui sont en charge de tout ça.
Donc tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est une entreprise adaptée. Et qu'est-ce qui fait qu'on va travailler dans une entreprise adaptée en fait et pas ailleurs?
Là, il faudrait demander à Mme Charbonnel de vous expliquer en plus. Qu'est-ce qui fait qu'on va travailler? D'abord, c'est parce que je pense qu'on a eu des difficultés dans notre vie d'avant. On a peut-être, par exemple, moi, apparemment, mon handicap, c'est d'être un peu lente. À l'école, j'étais surtout un peu lente. J'apprenais beaucoup, j'apprenais par cœur, mais retranscrire par écrit, c'était compliqué.
D'accord. C'est une chance pour vous d'avoir trouvé un endroit qui vous permette de travailler en fonction de qui vous êtes
Je dirais oui. Oui, parce que on n'est pas jugé sur notre capacité à travailler. En fait, ils font c'est une entreprise de travail adapté, donc le travail est adapté par rapport aux difficultés. Bon, c'est sûr que faut que le boulot soit fait quand même, malgré tout. Donc il y a des moments, je peux vous assurer qu'ici, on chôme pas. L'été, par exemple, en général, c'est très compliqué. On chôme pas du tout.
Donc là, on est où? Alors, nous sommes dans la blanchisserie. Ici, c'est le tunnel de finition. Les vêtements passent dans le tunnel et ressortent ici, ils sont secs.
D'accord.
Voilà. Alors, vous avez les sèches-linges. Celui-là fait 60 kg et ceux-ci font 40 kg à peu près. Alors ceci c'est la calandreuse, donc on engage les draps ici et ils ressortent pliés comme sur le chariot là.
Ah ouais, c'est pratique.
Ouais. Et ben vous allez voir, ça c'est la plieuse à éponge. Agnès, tu peux engager une éponge pour que madame voit comment ça ressort s'il te plaît. Ah, vous voyez, ça plie et ça va ressortir là. Ça va ressortir en face là. Normalement, dès que. Voilà, vous voyez, et ça ressort comme ceci. C'est plié directement.
D'accord.
Donc après ça, les vêtements, une fois qu'ils sont secs, on va les biper. C'est-à-dire qu'on va lire le code barre ici avec le beeper. Patrick, si tu veux bien faire. C'est quoi? C'est.
Quimperlé.
Mercredi. Regardez, alors il a bipé là et venez voir. Et ça marque le vêtement, le nom de la personne sur l'ordinateur.
D'accord.
Ça permet de compter les vêtements qu'on a lavés. Voilà. Vous voulez voir la section sale aussi?
Ouais.
Bah allons-y. Le linge, il arrive par ici.
D'accord.
Il est pesé dans un premier temps ici, sur les grands chariots. On note sur le cahier là-bas le poids du linge. Et mes collègues font le tri par différentes sortes de linge, le synthétique, la laine ou les vêtements de travail. Ils pèsent une nouvelle fois ici pour les dispatcher devant les machines.
Alors, moi, je suis Fabrice Berthelot, je suis donc responsable de production donc sur Canty, donc depuis aujourd'hui presque 5 ans. Voilà, donc je suis resté 20 ans. Une vingtaine d'années dans une grosse blanchisserie industrielle, et puis j'ai souhaité du coup revenir à quelque chose de plus humain. Voilà, c'est-à-dire que dans le groupe où j'étais, bon, on était arrivé à des trucs qui me convenaient plus, donc voilà, donc j'ai préféré mettre un terme. Donc au bout de 20 ans quand même, hein, après j'ai eu de très bonnes expériences, une très bonne expérience en tout cas au sein de cette entreprise, et voilà, j'ai voulu retrouver plus d'humanité, on va dire. Ouais, voilà.
Et ça se traduit comment
Le contact est complètement différent, même avec le personnel. Quoi. Ouais, c'est le jour et la nuit. Ouais,
d'accord.
On peut pas. Après, les contraintes n'étaient pas les mêmes non plus. Je ne sais même pas si on peut comparer. Le métier, on va dire, reste le même. C'est de la blanchisserie. Voilà, on lave du linge, on livre des clients. Mais c'est un autre monde.
Ouais. Voilà. Qui vous plaît?
Qui me plaît beaucoup plus, oui.
Okay. Charlotte, est-ce que tu veux bien expliquer ce que tu as fait là, madame, avec le micro?
Là, on s'occupe des serviettes de la maison de retraite de Fouesnant. Donc, une fois qu'on les a pliées, on les range sur ce chariot, d'une certaine manière. Donc, on essaye de mettre les grandes serviettes des draps de bain dans un coin, ici. Les autres serviettes sont rangées de cette façon-là, c'est-à-dire une à l'horizontale et deux autres à la verticale, disons. Et une fois qu'on a terminé de préparer les chariots, on les ferme et on les envoie en zone d'expédition pour que les livreurs les relivrent à nouveau.
Vous êtes combien dans l'entreprise ?
Ici à Grandry ? Je ne sais pas, on ne doit pas être loin de 30 à force, puisqu'il y a les insertions, ceux qui viennent par Pôle emploi, qui viennent pour 6 mois.
En chantier d'insertion, d'accord. Oui, vous cohabitez en fait entreprise adaptée et chantier d'insertion, d'accord.
Nous, le fait de cohabiter comme ça, ça nous semble vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, le chantier d'insertion n'a pas de préoccupation de dynamique économique. C'est l'entreprise adaptée qui fait l'effort d'investissement, qui fait l'effort d'équilibre économique et de dynamique économique. Le chantier d'insertion est là vraiment pour accueillir des personnes très très éloignées de l'emploi et de définir avec eux un projet professionnel avec ce support-là. Le risque était effectivement la cohabitation de ces deux publics. On s'est dit compliqué, des personnes en situation de handicap et des personnes présentant des difficultés sociales, mais qui a priori n'avaient pas de problème de santé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a une acceptation entre guillemets des deux parties. Les personnes en situation de handicap ne vivent pas en vase clos. Ils ont des personnes qui rentrent et qui sortent. Ça enrichit la culture, c'est-à-dire qu'en aucun cas les salariés qui cohabitaient avec eux les mettaient en difficulté. Pour eux, c'est accompagner un collègue en difficulté, ça fait partie de l'ambiance, de ce qu'on veut montrer et ce qu'on veut mettre en œuvre. On a effectivement des personnes qui nous quittent très très vite, c'est-à-dire au bout d'un mois, c'est trop compliqué, cette cohabitation. Ils trouvent que, effectivement, le personnel peut être surprenant, peut avoir des réactions un peu surprenantes. Donc, pour eux, c'est compliqué. Je dois dire que ça nous arrive, une fois tous les 2 ans, où on a quelqu'un qui quitte le chantier d'insertion parce que la cohabitation est difficile. Mais en règle générale, ça se passe plutôt, plutôt bien. Et souvent, ils sont surpris aussi par leur professionnalisme. C'est-à-dire que ce sont des salariés qui maîtrisent parfaitement l'outil. Mmh. Donc, malgré qu'ils aient des difficultés, ils ont quand même un très, très bon, très bonne maîtrise de leur métier.
Et tout à l'heure, vous disiez que vous êtes ici en entreprise adaptée parce que votre handicap, c'est le fait d'être un peu lente. Est-ce que c'est important, ça, d'être plus lent ?
Alors, je vais vous dire une chose, ce qui est dit dans ma catégorie d'handicap, mais moi, ça ne me dérange pas, parce que je fais tout pour améliorer la chose, donc voilà quoi. J'essaye de faire le boulot aussi bien, aussi vite que possible. Je suis reconnue comme travailleuse handicapée, mais pour moi, depuis 30 ans maintenant, ça me passe au-dessus de la tête, quoi. J'y pense pas.
Et quand vous avez eu cette reconnaissance travailleur handicapé, ça vous a ennuyé ? Qu'est-ce que ça vous a fait ?
Non, non. Enfin, sur le moment, parce que je ne savais pas ce que c'était. Tout ce qui était système Cotorep ou tout ça, je connaissais pas. Donc sur le moment, si, quand même un petit peu, quoi.
Ouais. Pourquoi ?
Quand on connaît pas le système dans lequel on rentre, ça c'est quand même inquiétant quand vous savez pas à quoi vous en tenir, à quoi ça correspond. Une fois qu'on m'a expliqué, il y a pas eu de problème.
Oui, ça vous avait permis de trouver une solution adaptée, quoi.
Voilà, voilà, tout à fait.
Mais c'est pas forcément un cheminement simple pour en arriver
là. Au départ, non. Au départ, j'ai eu du mal. Comme je vous dis, j'ai eu du mal. Et il a fallu qu'on m'explique à quoi correspondait, ce que c'était, ce que ça voulait dire, tous les termes tous les sigles dont on me parlait et tout. Je dis Cotorep, Cotorep, c'est quoi ça? C'est pareil, la MDPH, au départ, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est la maison des handicapés. Vous voyez sur un papier MDPH, parce que là, il y avait la première, le premier papier que j'ai reçu, il n'y avait pas le terme maison des handicapés en dessous. Je dis, c'est quoi ce truc? J'ai demandé à mon éducatrice ce que ça voulait dire, parce que je dis, c'est bien, ils m'envoient un courrier MDPH, mais ils ne mettent pas la transformation du sigle. Ouais. Mais c'est pareil, quand on ne connaît pas, on se demande toujours, on se demande à quoi ça sert, quoi. Et je vous dis, la Cotorep, au départ, c'était inquiétant, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire et je ne savais pas à quoi ça servait.
Et vous chantez, vous ne m'avez pas dit tout à l'heure que vous chantiez.
Ah, j'aime beaucoup chanter, oui. J'ai connu une fille brune que j'aimais bien tendrement. Cet amour que j'aimais tant n'a duré qu'un clair de lune. Elle avait ce joli nom de Ninon. Ce joli nom de Ninon. Autrefois dans la vallée, à travers les sentiers perdus, j'ai baisé ses jolis pieds nus, tout humide de rosée. J'ai gravé dans un sillon ce joli nom de Ninon, ce joli nom.